Allez, on envoie le bar à la 2, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une frite.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, 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 assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez.
Laurent Mariotte.
Nous sommes là, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour faire ripaille jusqu'à midi et demi comme tous les samedis sur Europe 1. On va voir du pays ce samedi matin, direction Marseille, une ville où il fait bon vivre et bien manger, ça on le sait. Mais vous allez voir qu'une génération de jeunes chefs, charcutières, épicières font vraiment bouger la gastronomie. On a plein de recettes et d'adresses pour vous. Direction ensuite le salon de l'agriculture, dans les coulisses d'un repas pas comme les autres, avec des paysans éleveurs. Vous allez entendre, on fera une belle tablée autour de belles races à viande. Nous recevrons aussi un autre amoureux des animaux, à sa façon. Laurent Baffy sera des nôtres dans un instant pour partager le plat du jour. En attendant, voici mes bons vivants en pleine forme. Avec sa revue 180 degrés, il montre l'engagement de ceux qui se donnent du mal pour nous faire du bien. Révélateur d'artisans du goût, Philippe Toinard est avec nous.
Bonjour Philippe. Laurent, bonjour Laurent, bonjour à tous.
Il revient d'une belle tournée dans les caves du Pays Basque avant de rejoindre la sienne en Bourgogne. Vous le lisez dans la revue du Vin de France, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis.
Allez, on ne change pas nos habitudes. C'est parti pour le goût de la semaine. Je vous pose la question, posez-vous-la en nous écoutant. Quel est le goût qui a marqué votre semaine? Peut-être une recette, une rencontre ou alors un beau restaurant? Je vous donne la parole, tiens Philippe Toinard.
Eh bien moi, ce sera un morceau d'agneau que j'ai cuisiné hier soir. C'est un morceau qu'on ne trouve pas souvent chez le boucher, donc quand j'en trouve, je le prends. Ça s'appelle l'épigramme. J'adore ce petit morceau.
J'adore.
C'est un morceau qui est situé sous l'épaule et qui comprend une partie de la poitrine. Alors, ça a la taille d'une escalope de veau à peu près. Moi, je le taille en grande lanière de 2 cm de largeur à peu près et je le poids dans du beurre salé, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'autre beurre que le salé. Et 3 minutes d'un côté, 1 minute de l'autre, pour que ce soit bien croustillant. Et alors, évidemment, le reste de l'année, vous pouvez le faire au barbecue,
bien
vous pouvez
sûr.
Le faire mijoter dans un wok, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, c'est à la poêle comme ça avec du beurre. J'adore
morceau
ça.
Morceau abordable.
Et c'est pas cher.
En plus, absolument, il est abordable. Et à propos de viande, Laetitia Viss, c'est la femme du boucher à Marseille. Eh bien, elle sera dans la place bébé tout à l'heure pour nous faire un beau plat du jour avec Laurent Baffy. Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Eh bien, comme vous l'avez dit, j'étais au Pays Basque, je me suis arrêté au marché de Saint-Jean-de-Luz, que j'adore, et je suis tombé devant un tout petit stand de la ferme d'Ostolarean, qui est située à Ustaritz, dans l'arrière-pays.
Absolument.
Et j'y ai acheté des délicieux bocaux de cornichons du Pays Basque.
Absolument.
Parfaitement bien
du made
fait,
in France.
Avec des petits grains de moutarde dedans et tout, délicieux.
Eh bien, vous avez bien fait. Mon goût de la semaine, eh bien, c'est le goût de la soupe à la grimace pour un de nos plus grands chefs cuisiniers, pour Guy Savoy, le chef qui a anobli la soupe d'artichaut à la truffe avec sa belle brioche. Vous le savez, il a perdu une étoile au guide Michelin. Ça faisait plus de 20 ans qu'il avait 3 étoiles. Alors, la question qu'on se pose, voilà, pourquoi lui retirer maintenant? Ça, c'est encore un autre débat. En tout cas, il fait partie de nos plus grands chefs. Des gens viennent du monde entier pour manger chez Guy Savoy et par ricochet pour découvrir d'autres chefs français. Un mot sur le sujet, Philippe, Olivier ?
C'est toujours compliqué pour nous parce qu'on n'est pas inspecteur au guide Michelin, donc on ne sait pas comment il juge les plats. C'est toujours compliqué aussi parce que moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé manger chez Guy Savoy. J'ai une pensée aussi pour les autres parce qu'on parle beaucoup de Guy Savoy, mais il y a d'autres personnes qui vont perdre leurs étoiles, Jean-Luc Tartarin et bien d'autres qui vont perdre une là, bientôt, enfin lundi. Donc c'est toujours assez gênant, mais... C'est pas nous qui décidons.
C'est une façon de faire le buzz aussi, parce qu'ils ont sorti ça une semaine avant la sortie du guide. On sait que le guide Michelin est en perte de vitesse sur les ventes, que ça vend plus beaucoup. Donc il y a une manière de feuilletonner aussi, comme c'est très à la mode en ce moment sur les chaînes d'infos.
Il y en a besoin, mais les étoiles, elles se gagnent, mais elles se perdent aussi.
Oui,
c'est la règle,
c'est
du,
la règle
jeu.
Du jeu.
Ce que je regrette, c'est qu'on n'en sache pas un peu plus sur les raisons exactes qui ont amené finalement à ce déclassement. Est-ce que le guide Michelin aujourd'hui réclame plus de créativité dans les assiettes? Est-ce que l'air aujourd'hui, la mode, comme on dit, est à des chefs comme Alexandre Madia ou Glenn Vielle, qui sont des très grands créatifs. Est-ce que la cuisine traditionnelle a un petit peu de plomb dans l'aile à leurs yeux? Il faudrait avoir plus d'explications.
Mais on se refera un petit débat autour du sujet. En tout cas, on salue Guy Savoy qui nous écoute tous les samedis. Et évidemment, il fait partie de nos plus grands chefs, quoi qu'il en soit. Allez, c'est l'heure de filer à l'épicerie. Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, est allé voir Julia Samut. Elle tient l'épicerie L'Idéal. C'est juste au début de la rue d'Aubagne. C'est une caverne d'Ali Baba pour gourmands. Allez, à Marseille.
C'est surprenant, ça rappelle les vieilles épiceries d'antan.
Qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'est le bric-à-brac?
Ouais. Je sais pas même comment c'est aménagé. On sait pas trop où est-ce qu'on va. Au fond, il y a des textiles, il y a des livres, il y a du fromage. Enfin, il y a tout.
Une boule à facettes.
Il y a des lustres un peu d'époque. C'est une autre façon de faire des courses, quoi. Et ça fait du bien.
Attends, moi, je prends une petite cuillère quand même.
Il faut tester le produit avant de le vendre. Il y a les brousses du Rove qui sont arrivées. On a une salade de clémentine de Sicile. Voilà, chaque jour est un autre jour.
Et là, qu'est-ce que vous avez repéré dans la vitrine?
Ça.
C'est quoi?
Eh bien, je sais pas. Donc, je vais en prendre.
Ben voilà. Ça s'appelle comment? C'est quoi?
C'est une salade de courge rôtie avec les olives tadjiasques, de la menthe fraîche et de la ricotta.
Mais moi, j'aime beaucoup les petits sandwichs qu'ils font.
Là,
par exemple, ouais, il y a des œufs durs, il y a du citron confit, il y a des capres, du thon à l'huile, une pointe de harissa, et ça donne très envie.
Merci beaucoup. Régalez-vous.
Merci.
Et merci à vous d'avoir répondu au micro de Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1. Ça fait très envie, c'est une très belle adresse. Et à 20 mètres d'ailleurs, Julia Samut a ouvert le restaurant L'Idéal, où on déguste de beaux plats méditerranéens. C'est au 8 rue d'Aubagne. Voilà, c'est vraiment un bel endroit pour faire une belle ripaille avec un très beau rapport qualité-prix.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia.
Ah, on va danser le miam miam à Marseille parce qu'il se passe de belles choses du côté de l'épicerie, de la charcuterie et de la restauration. Tiens, Philippe Toinard, Olivier Pouls, si je vous dis Marseille, vous pensez à quoi ou à qui gastronomiquement parlant, Olivier?
Moi, il y a deux adresses qui me viennent en tête. C'est chez Michel pour la fameuse, l'incontournable bouillabaisse, restaurant très traditionnel, mais pour moi assez incontournable. Et puis une table au sud de Ludovic Turac, que je trouve être un chef dynamique.
Philippe Toinard.
Eh ben, je vais barrer Ludovic Turac, donc, puisque je l'avais effectivement prévu. Moi, je voulais faire un clin d'œil au vent nouveau des pâtissiers à Marseille. Pendant longtemps, la ville était un petit peu, un peu à la traîne sur la pâtisserie. Il y a quand même deux très belles maisons. Bricoleur de Douceur, qui a trois boutiques maintenant, qui a ces derniers temps été beaucoup récompensé. Et Sylvain Depuis Chaffray, ça c'est pour la partie pâtisserie. Et pour la partie restaurant, Mathieu Roche du restaurant Ouréa, que j'aime beaucoup, qui est un ancien chef du Semilla à Paris.
On va continuer à explorer la table marseillaise avec Vérane Frediani, qui a écrit un très beau livre qui est une référence, hein, qui s'appelle Marseille cuisine le monde. C'est aux éditions de La Martinière, avec des recettes et des portraits de caractère. Elle est avec nous au Studio Coluche. Bonjour Vérane, merci d'être avec nous.
Bonjour. Je suis ravie d'être là.
Eh ben nous, c'est partagé. Je le disais, un très très beau livre, hein, parce qu'on est entre le guide et le livre de recettes en fait.
En fait, je voulais vraiment que les Marseillais puissent parler de leur ville, donc j'ai donné la parole aux Marseillais en faisant ce livre en tant que Marseillaise moi-même.
C'est ce que voilà. J'allais dire, vous êtes une vraie Marseillaise pur jus.
Mais sans accent.
Alors ça dépend, si je m'énerve, je le retrouve très très vite. Quand je reste calme, j'ai tendance à avoir un accent modéré.
Quels sont vos premiers souvenirs liés à la cuisine de Marseille, tiens?
Mais justement, il y a quelques années, enfin quand j'étais enfant et adolescente, on n'allait pas spécialement au restaurant. On mangeait surtout les uns chez les autres, donc des plats très variés, de différentes cultures culinaires. Mais on n'avait pas l'habitude de sortir pour dîner. La sortie, c'était la pizzeria. Donc mes souvenirs d'enfance, c'est surtout les pizzerias, dans Noailles notamment. Et puis,
chez Étienne, qui est
chez Étienne, bien sûr,
dans
le panier, oui, belle... mythique. Ouais. Mythique, bien sûr. Et dès que je parle de Marseille, ça revient à l'accent.
Ah, oui, c'est bien, c'est bien, bien sûr.
Et puis, non, mais les couscous, parce que ça reste, je pense qu'avec la pizza, c'est les deux plats principaux. Et les panis qu'on faisait pour l'apéro. Voilà. Puis sinon, j'ai une famille, moi, corse, italienne. Donc, on mangeait, bien sûr, beaucoup de plats italiens, des... Et puis les pieds paquets, tout ce qui est provençal aussi, parce que finalement tout ça nous vient, c'est assez commun à tout le bassin méditerranéen, donc manger des tripes, des abats, c'est très marseillais aussi.
C'est vrai que c'est un terroir bien spécifique, hein, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, la cuisine marseillaise, ce n'est pas tout à fait la cuisine provençale. Hein. Expliquez-nous
non.
Quelles sont les
disons
nuances.
Disons que ce n'est pas la cuisine du Luberon, ce n'est pas la cuisine des magazines un peu art déco.
Papier glacé, voilà.
C'est une Provence marseillaise, donc un peu plus Franche du Collier, et où on a toujours le système D qui rentre dans notre mode de vie et notre mode de consommer. Donc bien sûr, les tripes et les abats font partie de l'état d'esprit marseillais. On fait avec ce qu'on a et si on a une bête, on va l'utiliser en entier.
Et, ouais. Et une cuisine ouverte sur le monde et sur la Méditerranée, bien entendu.
Je dis toujours qu'en fait, à Marseille, moi, enfant, je ne me suis jamais vraiment tournée vers Paris. On est tournée vers la mer, vers l'horizon. On regarde loin. Et du coup, vers l'Afrique, bien sûr, et vers le reste de la Méditerranée. On a Paris derrière nous. Pour moi, physiquement, Paris est dans mon dos, en fait.
C'est ça.
Et je crois qu'on est beaucoup de Marseillais à voir les choses comme ça. Ouais, ouais,
alors moi, ce que j'aime aussi à Marseille, et ça fait plusieurs années que je le découvre, il y a un bel essor de l'agriculture urbaine. Oui. Et il y a une vraie force du collectif, du bénévolat. Et ça permet d'offrir une cuisine saine à tous, au cœur des quartiers populaires. Ouais. Et je voudrais qu'on en parle, Philippe Tonnard, avec des associations qui sont formidables.
Mm. Oui, alors on en a repéré trois. La première s'appelle Terre d'entrée et de partage. Alors ça œuvre pour la création de jardins partagés et de poulaillers, ça c'est pour les quartiers nord de Marseille. La deuxième, c'est une ferme qui s'appelle la ferme Capri, alors c'est dans le 15e arrondissement.
Pareil, les quartiers nord aussi.
Ouais. Voilà, c'est soutenu par la Cité de l'agriculture. Il y a 8500 m² de terres agricoles en friche qui ont été mises à disposition par la ville de Marseille et on y fait des recherches avec des partenaires universitaires, mais surtout on y fait de la production. Et on vend des légumes essentiellement à des jours bien particuliers. Il faut aller sur le site pour trouver les horaires. Et puis la troisième, c'est VRAC. Alors c'est toujours soutenu par la Cité de l'agriculture. Le principe, c'est de réaliser des groupements d'achat dans des quartiers prioritaires. Donc les gens adhèrent, achètent groupés et viennent chercher les produits qui sont la plupart du temps en circuit court, en bio et locaux.
Puis on a l'après-M, l'après-McDo à Marseille quand même dans les quartiers nord.
J'adore l'après-McDo.
Bah oui.
Mais c'est bien.
Ça s'appelle l'après-M parce
que c'est
un McDonald's qui a été pris en fait par une association. Le McDonald's fermé, c'était un franchisé qui a mis tout le monde à la porte et en fait les anciens employés ont repris le restaurant pour en faire un restaurant solidaire de formation, d'intégration, mais aussi à côté de tout l'argent permet de donner des paniers repas aux familles des quartiers noirs qui en ont besoin. Donc c'est vraiment l'après-McDonald's. Oui.
Et il y a Terre de Mars aussi. Hein.
Oui.
Ce sont des jeunes maraîchers qui font un superbe travail sur une petite surface dans les quartiers nord et qui vendent comme ça leur panier pour le voisinage.
Talus aussi. Mais en fait, Marseille est très étendue, donc on avait beaucoup de friches industrielles, certes, mais aussi des terrains vagues. Et tout ça peut effectivement servir.
Et on va revenir vraiment sur les jeunes femmes qui agitent les fourneaux, la gastronomie marseillaise. Il y a des épicières, des charcutières. Laetitia Viss est venue spécialement de Marseille. Elle sera là pour le plat du jour tout à l'heure avec Laurent Baffie. Puis on appellera aussi Marie Caffarel de la maison Payani, qui est une jeune charcutière et qui fait un travail superbe avec des producteurs locaux. Mais juste avant, c'est l'heure d'écouter notre bruit de cuisine. Vous le savez, nous sommes joueurs ici. Un bruit de cuisine qui vous permet de gagner le Blender Power 5XL Connect de Magimix. S'il vous plaît, écoutons ce bruit de cuisine. Oh là là, encore une fois, parce qu'il est court. Je pense que Véran a trouvé, on dirait. Elle m'a fait un geste, je pense qu'elle a trouvé, mais est-ce que c'est le bon geste? Est-ce que c'est le bon ustensile avec le bon ingrédient? Eh bien, jouez 39, 21, 50 centimes la minute, ou alors vous laissez vos coordonnées sur europe1.fr et on vous rappelle.
Les bons vivants se mettent à table sur Europe 1. Avec Laurent Mariotte.
Oh, et pas que, avec Philippe Toinard, Olivier Pouls, Véran Frediani et une belle invitée qu'on va vous présenter dans un instant parce qu'on cuisine en partenariat avec mon magazine Les Petits Plats aujourd'hui, la ville de Marseille. Une nouvelle génération de femmes, chefs, charcutières, épicières font bouger la ville. Vous les aviez vues venir, vous, hein, Véran Frediani, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre.
Ça fait un moment que je recherche les femmes chefs. Donc oui, à Marseille, il y en a beaucoup. C'est ça qui est chouette, c'est parce que la ville est vraiment la ville des possibles, et je pense que comme les femmes sont en général sous-financées par les banques, je passe un message.
Vraiment ?
Bien sûr. Donc, enfin, Laetitia pourra peut-être mieux le dire que moi. Je crois que Marseille, pour ça, est vraiment une ville où on peut se lancer plus facilement.
En voici une justement au studio Coluche. D'habitude, elle est dans son restaurant qui s'appelle La Femme du Boucher au sud du Vieux-Port. C'est Laetitia Viss. Bonjour Laetitia.
Bonjour Laurent. Bonjour.
Merci d'être
Bonjour.
Là.
Bonjour.
On parle beaucoup de vous hein, parce que ça fait un moment que vous êtes affranchi des codes de la cuisine pour faire votre belle cuisine à vous, une cuisine canaille et gourmande qui vous ressemble. Vous êtes né à Paris, vous avez fait vos armes chez Bernard Loiseau, Alain Dutournier, Cyril Lignac et puis vous avez
Olivier Nasty
aussi, absolument, en Alsace. Et vous avez repris l'ancien restaurant Le Boucher en 2019. Aujourd'hui, ça s'appelle La Femme du Boucher. Vous aviez envie de jouer avec la viande, alors ?
Oui, dans une ville de poissons, j'avais envie de redonner un peu de place à la saucisse.
Et pas que la saucisse, vous faites de très belles caillettes. On a fait ensemble une recette de caillettes avec du poulpe,
c'est vrai.
Qui est une recette magnifique. Hein.
Oui, merci.
Je donne quelques idées de plats pour que les auditeurs d'Europe 1 se rendent compte de ce qu'on peut manger chez vous à la femme du boucher. Alouette sans tête, sel d'agneau farci à l'andouillette et puis surtout les pieds paquets marseillais, qui est un monument hein, de la gastronomie marseillaise. Expliquez tiens, ce que sont les pieds paquets à nos auditeurs s'ils ne connaissent pas.
Bah, pied, c'est du coup des pieds d'agneau ou de mouton. Et paquet, c'est un petit carré de tripe dans lequel, en général, on met du lard et une persillade. Et c'est cuit avec de la tomate, du vin blanc ou rosé, un peu d'herbe aromatique et beaucoup d'ail. Et c'est cuit pendant très, 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 très longtemps. Le petit conseil, c'est de mettre un carré de couenne dans le fond de la casserole pour que ça n'accroche pas. Enfin, on dit ça n'attrape pas à Marseille,
oui,
d'ailleurs.
C'est ça.
Et voilà, et c'est très bon. C'est très dangereux de faire ce genre de recette à Marseille. Faut être.
Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, parce que chaque fois que vous la faisiez, les gens vous disaient, c'est pas tout à fait comme celle de ma grand-mère. Donc, vous avez
mis. Sur la carte, j'ai écrit pied paquet, entre parenthèses, pas ceux de ta mère.
Voilà, c'est ça. Donc voilà,
c'est clair.
Mais parce qu'on a tous des références, effectivement, de recettes de pied paquet. Alors, on le sait que Marseille est une ville tournée vers la mer, vers le poisson, mais c'est aussi un territoire tourné vers la viande et vous en êtes la preuve avec votre carte.
Oui, alors c'est pas vraiment une terre d'élevage, mais il y a quand même beaucoup de choses dont on n'entend pas beaucoup parler. Je pense notamment aux chevreaux du Rove qui sont incroyables. Il y a beaucoup d'agneaux, il y a le taureau de Camargue évidemment. Enfin, il y a plein de super produits à travailler qui sont pas forcément les plus répandus.
Même en Camargue aujourd'hui, il y a de l'Angus.
Mmh. C'est vrai.
Ça, c'est une belle bête.
C'est une très belle bête, bien élevée. Et on en parlait avec Vérane, c'est compliqué pour les filles de s'installer en cuisine, dans la restauration. C'est encore le cas aujourd'hui, vous confirmez ça?
Moi, j'ai trouvé ça compliqué, comme l'a dit Vérane tout à l'heure, plutôt au niveau des banques et de l'administratif, où j'étais pas du tout prise au sérieux. Mais par contre, on m'a fait un pont d'or dans mon installation. J'ai été très bien accueillie dans le quartier. Ça a été vraiment super et c'était un bonheur. Quoi.
Le vrai accueil à la Marseillaise. Oh, ouais. Hein.
Puis je pense qu'il y a une culture aussi à Marseille de cuisine méditerranéenne qui fait qu'on fait confiance à la femme pour cuisiner à la base.
Sauf le banquier, a priori.
Ah oui, non, mais parce que les banquiers doivent manger chez leur maman, mais ils s'en souviennent pas.
Ils ont des oursins dans les poches, peut-être. On a justement au téléphone une autre amoureuse de la bonne chère, c'est la charcutière Marie Caffarel de la maison Payani. Bonjour Marie.
Et bonjour.
Vous êtes charcutière à la tête de la maison Payanis, à 4 minutes à pied du restaurant de Laetitia Viss. Comme elle, vous êtes installée là-bas il y a 4 ans. Alors qu'est-ce qu'on prépare ce week-end dans votre belle charcuterie de la rue Breteuil?
Alors ce week-end, on a les pâtés en croûte avec le pâté en croûte poulpe et cochon. Je vois qu'on a eu la même idée.
Oui, c'est ça.
Poulpe, cochon, safran, chorizo et pâté en crème de sèche. Ensuite, on a le pâté en croûte tout volaille avec figatelli, bien sûr, parce que Marseille, c'est quand même aussi la terre des Corses. Certains l'appellent la ville corse française. Et on a aussi l'aioli, bien sûr, et la brandade.
Comment vous travaillez, racontez-nous, Marie Caffarel, vous travaillez avec des élevages régionaux?
Alors moi, je travaille avec le cochon du Ventoux. Le cochon du Ventoux, c'est un cochon qui est à peine à une heure de Marseille. C'est un cochon de race mi-rustique, mi-élevage, avec une belle marbrure, un beau gras. Et c'est du plein air, donc voilà, on peut pas faire plus local. On travaille aussi avec l'agneau de Sisteron et puis... bientôt, on va peut-être faire un petit peu de bœuf, donc on va tenter de rester dans le local aussi. Pourquoi pas faire un peu de taureau, effectivement.
Et ben voilà, je conseille vos caillettes qui sont magnifiques, même si ça vient d'Ardèche. C'est vrai que ça devient une sommité de la gastronomie marseillaise. Olivier Pouls.
Laurent, deux femmes jeunes, pétillantes, talentueuses qui défendent la charcuterie et la viande, mais... Que demander de plus?
Merci Marie Caffarel d'avoir été avec nous au téléphone et je rappelle bien votre belle maison, la maison Payani. On vous retrouvera dans le numéro des petits plats qui est en kiosque depuis hier.
Et c'est un super dossier sur les cuisses de grenouilles, ça m'intéresse.
Aussi, une belle enquête aussi. Merci Vérane d'être venue à la table des bons vivants. Merci Laetitia,
merci.
Mais ne bougez pas, on vous retrouve dans un instant pour le plat du jour avec Laurent Baffy. Et on vous mettra évidemment toutes les recettes sur europe1.fr. Laurent Baffy qui se rapproche du Sud de Coluche, mais juste avant, on va vous emmener faire un petit tour au Salon de l'agriculture. A tout de suite.
Quand les bons vivants ne sont pas sur le marché, ils sont sur Europe 1. La table des bons vivants avec Laurent Mariotte.
Et avec Olivier Pouls de la Revue du Vin de France, que vous pouvez retrouver également tous les jours sur Europe 1 du lundi au vendredi dans Historiquement Vôtre, aux côtés de Stéphane Bern et Philippe Toinard, le rédacteur en chef de la revue 180 degrés. Et pas que, il participe à de nombreux livres, hein, Philippe Toinard. Combien de livres cette année? Tiens, vous avez,
là, j'en ai trois en préparation.
Avec des chefs en général.
Alors
vous
là,
aimez,
oui,
hein.
Il va y avoir quelque chose sur Maxime Frédéric du Cheval Blanc, c'est le pâtissier. Il va y avoir la maison Mazet qui fait les pralines à Montargis.
Eh ben.
Et puis, parce que c'est la Coupe du Monde de rugby, il y aura un livre signé Philippe Toinard sur la cuisine et le rugby.
Ah,
et
ben on en parlera à cette table, vous pensez bien. Alors, on va trinquer. Vous entendez peut-être effectivement ce joli bruit qui teinte. C'est ça, c'est le gling-gling des verres. On trinque au Salon de l'Agriculture, c'est le dernier week-end, et nous avons des bouteilles médaillées du Concours Général Agricole. Alors on se pose la question, c'est vrai qu'on les voit partout, hein, ces bouteilles avec ces médailles. Que valent ces médailles? Eh bien, on va vous en parler avec la bande, avec Philippe et Olivier. Est-ce que c'est un gage de qualité pour le consommateur, vous diriez, Olivier Pouls?
Alors, d'abord, des médailles, il y en a beaucoup. Il y a énormément de concours,
c'est de la folie,
un peu partout en France, et il faut bien reconnaître que dans la grande majorité des cas, c'est plutôt des médailles en chocolat qu'autre chose. Au concours régional agricole, si je devais être honnête, je devrais vous dire que ce n'est pas un gage absolu de qualité. Alors pourquoi? D'abord parce que les meilleurs vignerons de France ne participent pas à ces concours, ils n'en ont pas besoin. Donc participent en général des vignerons qui sont en quête de reconnaissance, et il peut y en avoir de très bons dans le lot, ou des vignerons issus d'appellations, on va dire, un peu moins prestigieuses. Et là aussi, il peut y avoir des choses très intéressantes. Bon, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'il y a quand même un ratio de vins primés par rapport au nombre de vins présentés qui est proche de celui du bac, quoi. Tout le monde a un peu le truc. L'année dernière, c'est 7000 vins présentés, plus de 3000 vins primés.
La moitié.
Oui, c'est la moitié, mais oui, honnêtement, la moitié des vins présentés ne sont pas dignes d'une médaille. Mais je vous ai quand même rapporté une bouteille d'un vin primé qui est pas mal. Il y a de bonnes choses.
Ça permet parfois de découvrir des appellations, moi, je trouve.
Absolument. Ou des jeunes vignerons qui sont un peu en quête de reconnaissance. Il y a des choses intéressantes. Voilà, là, on se balade dans les côtes du Rhône avec un vin tout à fait honnête. C'est un assemblage de Syrah et de Grenache. C'est bien fait. Ça ne vaut pas très cher en plus. Et là, c'est vrai que la médaille d'or qui lui a été attribuée n'est pas volée. C'est le domaine de Roche-Colombe, voilà, en Côte-du-Rhône.
Un bon point.
Malheureusement, je trouve qu'il devrait être un peu plus strict.
Mais on a de belles médailles aussi sur les fromages, hein, sur les confitures, sur les miels. C'est vrai qu'en général, c'est quand même un indice de satisfaction de la part du consommateur et du jury.
D'autant que le jury, ce sont des consommateurs, justement.
Exactement.
Voilà, c'est pas un jury professionnel.
C'est ça qui est bien.
En fait, c'est important. Oui. Alors après, justement, c'est là où parfois ça peut un peu tiquer. Est-ce qu'ils ont le palais pour? On ne sait pas, parce qu'ils ont leur attribut des tables. Vous, ce sera les miels, vous, ce sera les fromages, etc. Mais au moins, ce sont les consommateurs qui jugent.
Alors, on reste au Salon de l'Agriculture, chers auditeurs d'Europe 1, mais cette fois-ci, on vous emmène dans les coulisses. Alors là, vous allez entendre, pour dîner avec les éleveurs. Ce sont les cuisiniers qui les nourrissent chaque jour, chaque midi. C'est une idée de l'Alliance des cuisiniers et des éleveurs de race bretonne pinoire. C'est vrai qu'il faut bien les nourrir, nos éleveurs. Et surtout le soir, quand tout est fermé, vous allez entendre, eh bien, Julien Amat s'est faufilé dans le salon une fois les portes fermées pour assister au dîner. Qu'est-ce qu'on mange quand on se retrouve comme ça entre éleveurs au Salon de l'Agriculture? Eh bien écoutez.
Le menu est salade de lentilles avec des herbes, un peu de vinaigrette à la moutarde, de l'oignon, une boulette de viande sauce tomate, sarrasin et fenouil confit. Et en dessert, île flottante avec un petit morceau de gâteau.
Et voilà, morceau de pain.
Merci. Alors comme on travaille uniquement sur réservation, ils viennent pointer quand ils arrivent et on leur donne en échange une assiette. Et une fois qu'ils sont installés, on leur demande justement de se regrouper, de ne pas rester entre eux et de compléter les tables.
Je suis éleveur ovin, des brebis, de la Blanche du Massif Central. Producteur de lait à Comté dans le Jura, moi.
Moi je fais des poulets dans le Gers, des poulets en plein air bien sûr, ce qu'on appelle des poulets cou-nus, c'est-à-dire ils ont le cou pelé.
Eh ben, c'est notre copain Stéphane là, qui élève des pinoires bretonnes, qui nous a amenés dans cet antre où on mange la meilleure cuisine du salon. C'est vraiment pas le cas partout, hein. Il y a vraiment des endroits où c'est de la bouffe industrielle.
Donc en plus on peut amener notre viande, il nous la prépare. Là on a pu goûter de la bretonne pinoire, on a mangé de la béarnaise, regardez comment c'est préparé.
Merci. Jamais un cuisinier digne de ce nom ne se permettra d'exiger de nous de produire 15 ailes par poulet, bien évidemment. Et il saura quoi faire des différents muscles, des différents quartiers,
Qu'est-ce qu'il y a dans les boulettes ?
Gorge de porc et puis après des morceaux de veau. Quand on a fait les rôtis, on a gardé les parures et on a haché et mélangé.
On a mangé de la paupiette, du sarrasin, on a mangé du fenouil. Ils nous ont pas avec de la sauce en plastique. Hein. Donc je reviens demain.
Ah bah, et puis avec de beaux accents, voilà.
Ah, c'est le Tour de France des accents.
Hein. Exactement. Merci à Xavier Hamon qui a fondé l'Alliance des cuisiniers en 2016. Hein, ce sont eux qui ont cuisiné pour les éleveurs de race locale rustique depuis le début du salon. C'était une première, hein, ce petit restaurant comme ça, éphémère, uniquement à destination des éleveurs. On voulait vous en faire profiter, chers auditeurs d'Europe 1. C'était une belle première, hein, Philippe Thonard.
Oui, puis c'est justement, il faut saluer cette fameuse Alliance des cuisiniers.
Ah oui, absolument.
Alors, c'est pas encore très très connu, mais alors, il faut surtout dire l'Alliance des cuisiniers et pas l'Alliance des chefs de cuisine. Ils ont un peu de mal avec cette
confusion.
Alors, c'est une association de cuisiniers artisans, comme ils aiment s'appeler. Ils se reconnaissent pas trop dans les syndicats actuels comme l'UMIH. Donc, en fait, eux, moi j'ai un peu lu leur charte qui est très très longue. Vous pouvez la voir sur le site. Ils défendent la cuisine du vivant. Alors, on en parle beaucoup du vivant. Donc, ils font par exemple un soutien assez fort aux semences paysannes. Ils se battent contre la cuisine industrielle. On voit aussi beaucoup d'efforts demandés de leur part pour qu'il y ait une rémunération digne des collaborateurs, qu'il y ait de belles relations entre vie privée et vie personnelle. Une meilleure nourriture pour les gens qui mangent mal. D'ailleurs, eux sont les premiers placés, mal placés au salon. Ils mangent mal. En fait,
non mais ça, c'est dingue.
C'est hallucinant, mais il y a plein de nourritures industrielles. Il y a McDo au salon.
Et donc, l'Alliance des cuisiniers, eux, ils se battent justement pour qu'on mange bien dans les EHPAD, pour qu'on mange bien dans la restauration collective et pour qu'on mange bien au salon de l'agriculture.
Et ben on voulait les saluer justement. Allez, c'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine sur Europe 1. Je vous le rappelle, on vous offre le Blender Power 5XL Connect de Magimix, votre nouveau partenaire santé et bien-être connecté en Bluetooth, s'il vous plaît, pour des recettes équilibrées et gourmandes. Il est garanti 30 ans et on accueille notre première auditrice ce samedi. C'est Christine. Bonjour Christine.
Bonjour Laurent, bonjour. Et bon vivant.
Bonjour Christine.
Vous nous appelez d'où Christine ?
Je vous appelle de Rennes.
Ah,
il fait un soleil magnifique.
La Bretagne, j'y étais il n'y a pas longtemps à Rennes, figurez-vous, chez nos amis de West France. Qu'est-ce qu'on mange chez vous ce midi, alors racontez-nous.
Eh bien, je ne l'ai pas fait exprès, mais on mange quand même des galettes de blé noir.
Ah,
avec de l'andouille de guéméné et puis des épinards.
Il n'y a pas de doute, nous avons bien une Bretonne en ligne.
Ouais, on n'est pas en Alsace.
Il n'y a pas de doute. Alors, on écoute le bruit de cuisine, Christine.
Très bien.
Vous avez trouvé ?
Je pense que c'est d'une personne qui est en train de trancher manuellement. Là où j'hésite, c'est sur l'objet qui est en train d'être tranché. Alors, j'hésite entre un légume de type chou, par exemple, ou du pain.
Ah, il faut choisir.
Du chou ou du pain ? Bah, allez, on voulait choisir le chou breton ou le pain français ?
Eh bien, optons pour le pain français.
Eh bien, vous avez bien opté, Christine. C'est gagné.
C'est vrai. Ouais. Formidable.
C'était ça, effectivement. C'était un joli pain de campagne taillé avec un beau couteau scie. Eh bien, c'est gagné pour vous. On vous envoie le Blender Power 5XL Connect de Magimix chez vous à Rennes, chère Christine. Et vous allez voir, vous allez pouvoir faire de belles recettes avec.
J'en doute pas.
Merci d'avoir joué avec nous, Christine.
Merci beaucoup.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Amoureux des bons mots et de la vanne qui fuse, on aimerait avoir la moitié de sa répartie. Et pourtant, il se pose toujours des questions. C'est d'ailleurs le titre de son dernier one-man show en tournée actuellement. Dictionnaire, anecdote, il fête son million de livres vendus. Chez lui, la saillie est un muscle qu'il entretient. Laurent Baffy est notre invité. Bonjour Laurent Baffy.
Bonjour Laurent, tu commences fort. La saillie est un muscle.
Bah, c'est ça un petit peu quand on vous connaît et quand on vous voit. Vous entretenez sans arrêt cet art de la vanne et de la répartie.
Oui, absolument, c'est mon métier et on me paye pour ça.
Quelle chance ! Comment ça va ?
Ça va très bien, surtout quand je suis là.
Samedi midi, c'est bien de vous avoir à cette heure-ci parce que vous émergez seulement normalement.
Oui, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas.
Non, vous êtes un homme de la nuit, vous travaillez la nuit, vous écrivez la nuit, beaucoup.
Oui, et puis je procède à quelques attouchements dont on ne parlera pas. Car ce n'est pas le propos.
Quel est votre goût de la semaine, Laurent Baffy ?
De la semaine ? Mais qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine ?
Bah oui, je vous posais la question. Au restaurant, à la maison ?
Qu'est-ce que vous buvez d'ailleurs dans votre thermos là ?
Je bois du thé. Le goût de la semaine, j'ai mangé un très bon pain. Voilà, j'adore le pain. Et le bon pain se fait de plus en plus rare. Ah si, j'ai mangé de la poutargue.
Ah, les œufs de mulet séchés.
On dit aussi la boutargue, ça dépend des régions.
Exactement, on peut dire les deux. Boutargue ou poutargue, on peut dire les deux. Et qu'est-ce que vous en faites de la poutargue ?
C'est très gênant.
Non, mais
non, c'est la vie privée.
Culinairement parlant, j'entends.
Ah bon, c'est très simple, je la coupe en lamelles, je la mets sur de l'huile d'olive et je la mange avec un bon pain.
Ben voilà. Essayez de la râper aussi avec une râpe très fine.
Oui, essayez de la râper, je suis capable de la râper. Essayez de la râper, on parle comme un demeuré.
1 million de livres vendus, c'est
par
énorme,
jour, par
Laurent
jour.
Baffie, par jour. Qu'est-ce que ça représente pour vous, à part l'argent ?
Une fierté énorme. Si on m'avait dit qu'on me voit aux Gémonies quand j'étais enfant, si on m'avait dit qu'un jour j'écrirais des dictionnaires qui se vendraient par centaines de milliers,
moi je ne l'aurais pas cru. Sans doute.
Ouais, je ne l'aurais pas cru, mais mes parents n'auraient pas mis un copec là-dessus.
Le dictionnaire de Laurent Baffie, l'intégrale vient de sortir chez Quairaut. C'est vraiment, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et acheté, c'est dans la lignée de Pierre Dac, de Francis Blanche. Vous jouez vraiment avec. Non, mais je le pense vraiment. Vous jouez
moi aussi, vraiment mais avec... c'est gentil.
Vous jouez vraiment avec les mots. Et quand on lit bien entre les lignes, on découvre aussi votre sens de l'humanité et votre altruisme, Laurent
Baffie.
Oui, Baffie.
Je ne pense pas qu'en ce moment, on puisse dire entre les lignes. Je pense qu'il y a des expressions à bannir pour des raisons d'actualité. Merci.
Alors, je vais en faire quelques-unes de vos expressions, tiens, qu'on retrouve dans votre dictionnaire. Dans l'intégrale, il est super bien foutu, ce dico. Abba.
Vous êtes pas mal foutu non plus, Laurent.
Abba, groupe de rock préféré des tripiers. Addition. Papier qui donne envie de pisser au radin.
Oui, comme par hasard, tiens.
C'est vrai.
Oh, pipi. Mais tu pouvais pisser à l'entrée. Tu pouvais pisser pendant, à l'apéro. Tu pouvais pisser pendant le plat. Ben non, là, c'est pendant l'addition. J'ai plus envie.
Anecdote, j'aime beaucoup la définition d'anecdote chez vous. Petite histoire qui peut prendre des plombes quand c'est Michel Drucker qui la raconte.
Ah bon, c'est tous fait cerner par Michel Drucker qui nous a raconté une anecdote qu'on avait déjà écouté 17 fois.
Michel, si tu nous écoutes, aïe, plante qui éloigne, les pelles et attire les râteaux. C'est joli ça.
Oui, c'est joli.
Madeleine, petit gâteau qui nous jette notre passé à la gueule.
Ouais, notre passé, notre enfance, notre...
Comment vous écrivez ça ? Parce que ça paraît comme ça facile, des fulgurances,
non, ça ne l'est pas.
C'est du boulot.
Là, ça ne l'est pas. En l'espèce, j'ai pris le dictionnaire encyclopédique, 30 000 mots. Je l'ai lu de A à Z pour savoir ce que ça me déclenchait. Ensuite, je l'ai relu de Z à A et j'ai refait ça 2-3 fois. C'est des années de travail. Mais ça, c'est le contraire de la répartie sur un plateau de télé. La répartie, c'est inné, ça vient comme ça. C'est de l'instantané. Alors que ça, c'est du travail, c'est laborieux, c'est du sang, des larmes.
Et puis des coups de téléphone, parce que vous aimez appeler les copains pour tester les définitions.
Et évidemment,
voilà,
et vous en faites partie, Laurent.
Pour voir comment ils réagissent.
Vous faites partie des cobayes.
Alors, au jeu des définitions, Philippe Toinard qui est à vos côtés, Laurent Baffie.
Connard
non, bah non.
Toinard.
Non, avec un T.
Ah, vous Philippe... pas handicapé patronymique, j'ai peur.
Philippe Toinard a eu envie de vous souffler.
Mais
pour
Toinard, c'est pas terrible non plus.
Il a eu envie de vous souffler pour une prochaine édition. Quelques mots de la langue française, parce que c'est vrai, Philippe, elle est riche, cette langue française, et encore plus, j'allais dire, quand il s'agit de vocabulaire culinaire.
Elle est très riche, et surtout, je voulais faire un petit jeu avec vous, Olivier, et les deux Laurent au pluriel, sur ce fameux vocabulaire culinaire, avec des mots qui ont presque disparu du dictionnaire, certains sont même totalement désuets, et je voulais faire ça, parce que Laurent, ça peut peut-être vous inspirer pour le prochain dictionnaire.
Alors, on vous écoute.
Alors, on va commencer par fistulane.
Oh là là !
Ah oui, on démarre
fort. Oh là là, ça sent le Louis XIV.
Donc, c'est à ne pas confondre donc, avec fistule. Fistulane, c'est un mollusque. Et alors, ce que j'adore dans la définition du dictionnaire que j'ai retrouvé, qui est un dictionnaire de 1938, c'est que déjà à l'époque, c'est considéré comme vulgaire. L'autre nom de fistulane, c'est gastrochère. À ne pas confondre avec un restaurant hors de prix, donc. Et toujours,
bravo,
selon ce dictionnaire, ce mollusque se prépare comme des clovis, qui est l'autre nom de la palourde.
De la palourde.
Et Laurent, la palourde, vous la décrivez dans votre dictionnaire comme un coquillage dont la femelle évite les vannes de cul.
Plus étonnant, le mot bacon, Philippe, ne serait pas anglais.
Non, il est français et on disait
bacon.
Ça se prononce bacon et ça désignait autrefois en France le porc de manière générale. Il est ensuite passé dans la langue anglaise pour désigner le lard maigre fumé, avant de revenir chez nous avec l'accent. Et de bacon vient baconique pour décrire un repas exclusivement composé de cochons.
Petit clin d'œil aussi, Philippe, à Philippe Bouvard et la fameuse question de Madame Belle-Père de Loche.
Oui, alors rappelons effectivement que Loche, c'est d'abord une commune d'Indre-et-Loire avec un très beau château.
Et un poisson aussi.
Et voilà, et mais Loche, sur le plan culinaire, c'est un poisson. C'est soit la Loche franche, qui est une petite poisson d'une dizaine de centimètres.
Oui, elles disent ce
qu'elles pensent.
Mais de toi, je t'emmerde, pêcheur de mes couilles.
Voilà, pêcheur qui vit en eau douce. Sinon, vous avez la Loche de rivière. La loge de mer qui vit essentiellement en mer Baltique. Et donc, si vous en pêchez deux paires, vous aurez donc deux paires de loches.
Joli. Et Laurent, si dans une autre vie, vous auriez été brandevinier, quel métier exerceriez-vous, selon vous ?
Brandevinier ?
Oui.
Alors, c'est un rapport avec le vin ?
Oui.
Il est fort. Hein.
Ah, ouais, il est fort. Le brandevinier, c'est celui qui, dans certaines régions de France, allait dans les campagnes avec son alambic. Il faisait la distillation du vin, du marc et des fruits. Et de brandevinier, il y a brandevin qui signifie eau de vie de vin.
Et pour terminer, Philippe, vous avez noté que Laurent Baffy avait donné sa définition du gendarme dans
son
dictionnaire.
La définition de Laurent, c'est un gendarme est une sorte de punaise qui se nourrit de points. Mais dans un registre plus culinaire, savez-vous, Laurent, ce qu'est un gendarme ?
Un gendarme. Il y a un terme culinaire avec ça.
Ouais. Non, non, c'est une petite charcuterie.
Ah, il y a deux choses. Bravo,
ah,
bravo.
Charcuterie.
Ouais, les petits saucissons sont très fins.
Oui, bravo.
Et aplatis.
Alors la première, c'est le hareng sauce.
Ah non, là tu vous parlez de votre bite. Là. Donc, là, c'est dommage parce que c'est hors sujet, pardon. Hein.
C'est le hareng sauce, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et
ah,
l'autre,
c'est
effectivement une saucisse qui se vend, là encore, par paire.
Eh ben voilà. Eh ben on en apprend tous les jours. Merci Philippe Tonnard.
Bravo, très belle rubrique. Et autant l'homme est disgracieux, mais son travail est remarquable.
Et on retrouve de belles définitions dans votre dictionnaire, Laurent Baffy, l'intégrale. Et vous êtes également en tournée avec votre spectacle.
Oui.
Eh bien, on va en parler dans un instant. Et puis, on va se mettre à table, surtout avec le plat de Laetitia Viss, la femme du boucher. Elle est venue spécialement pour vous cuisiner un plat populaire, réconfortant, comme vous les aimez, Laurent Baffy, et qui va plaire à de nombreux auditeurs d'Europe 1.
Allez, on envoie le bar à la 2, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une tripe.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà.
Europe 1.
Hop, 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 assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez.
Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous arrivez sur Europe 1 et merci d'être là si vous êtes des nôtres depuis 11h. Laurent Baffy est notre invité. Il vient nous voir les bras chargés de cadeaux, de victuailles et de présents. Le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale, vient de paraître chez Kerhaut. Il fête en ce moment son 1000e livre vendu en comptant les dictionnaires et les anecdotes.
Oui,
et
tous les livres confondus.
Tous les livres confondus. Et vous êtes en tournée en ce moment, Laurent, avec votre spectacle. Laurent Baffy se pose des questions. Vous serez le 4 mars, c'est-à-dire ce soir, au Havre, le 17 mars à Nantes, le 21 mars à Bordeaux, le 5 avril à Lyon, le 8 avril à Lille et le 12 mai à Marseille. Quel genre de questions vous posez-vous sur scène pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne sont pas encore venus vous voir ?
Bah, je traite tous les sujets en fait, la vie privée, les enfants, les animaux, la religion, tout. La première question, c'est pourquoi quand je rêve que je baise, je me réveille trop tôt, et quand je rêve que je pisse, je me réveille trop tard. Non mais c'est une vraie question.
Oui, mais on est à table. Et autre chose.
Alors, autre chose. Une éphémère peut-elle procrastiner ?
Ah, c'est joli ça. Voilà.
Bah oui, c'est joli.
C'est un insecte l'éphémère.
Oui. Oui. Est-ce qu'elle peut procrastiner ?
C'est-à-dire remettre au lendemain ?
Oui.
Eh ben,
bah
non, puisqu'elle est éphémère. Voilà. Alors, vous avez aussi joué Laurent Baffy.
Ah, j'en ai une culinaire.
Ah, vas-y.
La vaseline ne serait-elle pas le meilleur condiment pour tourne-dos ?
Vous avez aussi.
Non, elle est belle celle-là.
Elle est très belle. Elle est très belle.
Ah, oui. Et elle est culinaire.
Ah, elle est culinaire. Vous avez aussi joué Laurent Baffy. Laurent Baffy est un sale gosse. Quel genre d'enfant étiez-vous ? Racontez-nous.
Bah, j'étais un sale gosse, j'aimais bien faire des blagues tout le temps, faire rigoler mes potes et faire le con en détriment de ma scolarité. Voilà.
D'où vient cet art de la répartie ? C'est génétique, c'est de famille, ça s'est entretenu sur le tard ?
Bah, c'est un petit don que j'avais quand j'étais jeune et puis j'ai identifié très très vite, très, très tôt, qu'on se faisait des copains en les faisant rigoler. Donc j'avais déjà cette petite vis comica et puis j'ai appris à trier. Et à améliorer, donc j'étais le rigolo de service. Quoi.
On va passer à table dans un instant avec Laetitia Viss, avec un beau plat du jour. Mais juste avant, je voudrais savoir quel genre d'enfant vous étiez à table.
Ah oui, non, mais moi je fais partie d'une génération où on n'avait pas le droit de parler à table. Donc on est passé de l'enfant martyr à l'enfant roi maintenant, parce que les gosses ils font ce qu'ils veulent.
C'est vrai.
Et voilà, j'ai un souvenir, si ma maman entend. Je voulais pas de soupe.
Ouais.
Elle avait fait une soupe de cresson. Je lui ai dit non. Au moment où elle a versé, et j'ai fini aux urgences, elle m'a brûlé toute la main avec la soupe de cresson.
Pour vous forcer à goûter ?
Non, non, c'est qu'elle a pas fait exprès.
Ah.
Elle versait. Moi, je faisais non. J'ai mis ça devant l'assiette, la main devant l'assiette, et j'ai fini aux urgences.
Bah, figurez-vous qu'elle nous entend, votre maman. Elle est
oui.
Là. Allô, Ginette ?
Oui.
Ah, oh, bah, je parlais de toi, maman.
Il était pas.
Tu m'as torturé.
Écoute-moi, comment faut martyr, tu repasseras quand même. Hein.
Maman, mais tu te souviens qu'il m'a brûlé la main,
hein.
Espèce de vieille salope.
Qui con, va.
Je t'aime, maman.
Voilà.
C'est... Moi aussi,
tu te souviens de la soupe de cresson, maman ?
Oui, oui. Oh putain, les urgences, dis donc.
Qu'est-ce que vous lui faisiez quand il était enfant à table, à part la soupe de cresson ? Qu'est-ce qu'il aimait manger ?
Ah ben, il adorait les poivrons marinés, là, que je fais plus, parce que c'est trop chiant.
Ah, c'est bon, ça, maman, c'est bon, ça.
Ben oui, mais j'ai fait plus. Attends, je vois plus clair. Je peux pas les éplucher.
Et maman, t'as oublié, tu faisais une terrine merveilleuse, et tu sais plus la faire, et t'as oublié.
Non, j'ai pas oublié, je vois plus de trop la faire, je vois plus.
Il y avait une soupe que vous faisiez très bien, qui était une soupe d'origine italienne aussi, Ginette.
Oui, la pastifagiole.
Ça, c'était bon, maman.
Des pâtes avec des haricots, du lard et tout ce qu'il faut dedans, quoi.
Il mangeait tout.
C'est pas compliqué. Non, il mangeait pas tout. À l'époque, il mangeait pas d'épinards. Hein. Il voulait pas d'épinards.
Merci Ginette d'avoir été avec nous au téléphone et on voulait vous embrasser.
Bisous maman, je t'aime.
Hey,
maman, quand tu viens à Paris, on ira dîner avec Laurent.
Avec plaisir.
Oui, je lui ai dit hier.
Avec plaisir. On s'est parlé avant pour préparer l'émission.
Tu m'as trahi,
parce
maman.
Parce qu'on a des dossiers.
Tu m'as trahi.
Merci, Ginette.
Comment je t'ai trahi?
Je te déshérite.
Des gros bisous à tous. Des gros bisous à tous.
Bisous, maman. Je t'aime.
On vous embrasse. Gros bisous, Ginette.
Bisous.
C'est l'heure du plat du jour sur
Europe 1. C'est gentil d'avoir appelé ma maman.
On l'adore, votre maman. On l'adore. Voilà. Et on voulait vérifier si ce que vous disiez était vrai.
C'était vrai.
Et c'était vrai. Alors, on va passer à table maintenant avec la femme du boucher. C'est le nom de son restaurant. C'est Laetitia Viss qui était déjà avec nous tout à l'heure au début de cette émission. Parce qu'on met en avant la jeune garde de la cuisine marseillaise. Alors là, Laetitia, vous revoilà. Acte 2. Racontez-nous ce que vous avez préparé pour les auditeurs d'Europe 1 et pour Laurent Baffy.
J'ai ramené un chou farci parce que pour toi c'était la soupe de cresson, mais chez moi c'était le chou farci. C'est mon père qui le faisait. Bon, il le faisait entier. Là, je l'ai fait en petit avec du foie gras, la langue de cochon, pignon de pin, raisin de Corinthe, épaule de porc et évidemment une purée au beurre et puis le trou dans la purée avec le jus. Hein, sinon, c'est pas.
Ah, ça me rappelle un film que j'ai vu quand j'étais ado, Le trou dans la purée. Et je crois qu'il est encore trouvable en VHS.
C'est possible, peut-être. Racontez comment vous travaillez la farce qui est à l'intérieur de ce chou.
C'est à moi que vous parlez ?
Non,
parce que moi aussi je travaille la farce.
Vous êtes expert
en farce.
C'est
dans mon livre.
Absolument, mais Laetitia ?
Moi, je fais 2/3 épaule de cochon, 1/3 poitrine fumée.
Ouais.
Évidemment, de bonne qualité, avec pas mal de gras. Et je lâche à la grosse grille. Ensuite, je rajoute 12 g de sel au kilo, 4 g de poivre au kilo. Et là, j'ai mis de la langue de porc qui était déjà confite, que j'ai coupée en cubes, le foie gras cru en dés, pareil. Et puis ensuite, je mets tout ça dans une compresse stérile en coton. Avec la feuille de chou qui est blanchie au préalable pour avoir cette petite...
Vous cuisinez aux urgences ?
Oui, ça m'arrive de temps en temps de faire des petits stages là-bas, mais pas pour ce chou-là.
Et après, je suture.
Voilà.
Et donc, la feuille de chou blanchie, on recouvre ?
Oui, je mets la petite boule à l'intérieur. Je mets
j'ai fait ça ?
Je mets tout ça dans une compresse et au moins, ça me permet de maintenir une jolie forme quand je le cuis au courbouillon.
Et cette purée avec ce petit jus de viande, parce que vous êtes une spécialiste du jus de viande chez la femme du boucher à Marseille, Laetitia. Hein.
C'est important le jus de viande, ouais. ça se perd un peu je trouve dans les restaurants et ça me fait de la peine, donc du coup il y en a toujours chez moi. Ouais.
Laurent Baffy, quel genre de mangeur êtes-vous? Parce qu'on connaît votre engagement et votre passion pour les animaux et le bien-être
animal. Oui,
alors là,
c'est pas très parti animaliste, là. Il y a du foie gras, il y a de la langue de porc, il y a beaucoup de viande là-dedans.
Oui, mais la langue de porc, c'est une façon de ne pas gâcher l'animal qui a été tué. On mange les abats, c'est ça aussi au départ, hein, le fait de manger les produits tripiers.
Oui. Ah, mais il y a du chou aussi, hein, et de la pomme de terre.
Ouais, je vais goûter. Non, mais moi, je ne suis pas vegan, je mange de la viande, je suis flexitarien. Je réduis beaucoup, genre une fois par semaine, ça suffit. Mais je vais goûter, ça a l'air très bon.
Mais c'est hyper bon.
Et je vous invite à Marseille, à mon spectacle.
C'est gentil, merci, je viendrai avec plaisir.
C'est très équilibré, il y a du goût, il y a de la saveur. Et je trouve ça magnifique.
Merci.
Qu'est-ce que c'est bon. Vous avez revisité le chou farci, Laetitia. Et je le disais, c'est une façon aussi, quand on cuisine comme ça les produits tripiers, de respecter l'animal. Il n'a pas été tué pour rien, comme on dit.
C'est vrai que dans je rejoins Laurent sur son discours de manger moins de viande. Il y a aussi un vrai débat qui est manger la viande différemment. Aujourd'hui, il y a plus de 15% d'animal qui est jeté à l'abattoir. Par un manque de temps, un manque de transmission aussi, la plupart des jeunes générations ne s'intéressent plus du tout aux abats, ça ne fait plus partie de notre culture.
Pour rebondir sur les produits tripiers, Laetitia, je voudrais signaler que vous avez sorti 3 cahiers de recettes aux éditions de l'Épure, qui s'appellent 10 façons de préparer. C'est une belle collection qu'on aime beaucoup à cette table. Vous les connaissez, Philippe Toinard?
Ils sont très beaux.
Donner les titres.
On va y aller. Hein, donc ça s'appelle Les couilles, La langue et Les jus. Donc
voilà.
Ça, c'est les 3 de Laetitia. Et on pourrait rajouter dans la même collection, toujours à l'Épure, de Fabrice Bloch, Le cul. 10 façons de le préparer.
Exactement, mais c'est pas une blague. Hein.
C'est des vrais petits livres, très jolis.
C'est des vrais petits livres autour de morceaux et de produits parfois méconnus.
On peut manger et bander en même temps.
Il y a un coffret Saint-Valentin qui a été fait d'ailleurs avec tous ces titres-là. Voilà.
Alors c'est vrai qu'on est dans une belle cuisine de terroir, comme on dit. Et pour revenir à votre dictionnaire, Laurent Baffy, définition du mot terroir, mot magique qui autorise à manger gras et à picoler, quitte à faire exploser son cholestérol et ses gamma GT. C'est vrai qu'il y a un peu de
ça. Oui, dans le terroir, tout est permis. Ah, c'est le terroir.
Qu'est-ce qu'on boit avec ce chou farci, Olivier Pouls ?
Eh bien, je vous en parle dans un instant, parce que ça tombe bien. J'avais prévu un vin pour la chronique qui va venir. Eh bien, ça marche sacrément bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah ben, suspense.
Entièrement d'accord.
Eh ben, on va en parler dans un instant. Mais pour le moment, c'est l'heure d'accueillir notre deuxième auditrice pour tenter de trouver notre bruit de cuisine. Je vous rappelle qu'Europe 1 vous offre le Blender Power 5XL Connect de Magimix. Garantie 30 ans, livré avec 85 recettes
de 8 jours.
À retrouver sur l'application gratuite Magimix.
Oh, le cadeau de merde.
Garantie 30 ans, vous plaisantez. Au contraire,
ouais, c'est de la qualité. 8 jours.
Et c'est du Made in France. Et nous sommes avec Anne au téléphone. Bonjour, Anne.
Bonjour Laurent, bonjour des bons vivants. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ça va,
vous n'êtes pas choqué par Laurent Baffy et son amour de la langue ?
On a l'habitude maintenant, tout va bien.
Vous nous appelez d'où, Anne ?
De Vannes.
Ah ben
ah
voilà.
Bah tiens.
Ah ben parfait.
Ma patrie.
Et ben voilà.
La patrie de Laurent Baffy, exactement.
Exactement.
Alors Anne, on écoute le bruit de cuisine et vous nous dites à quoi vous pensez juste après.
Oh, c'est trop facile. C'est trop facile.
Anne, une proposition.
Un moulin à café.
Un moulin à café ? Anne, c'est gagné !
Oui.
Bravo !
Oh, super.
Bravo !
Pas trop déçu, Anne ?
je vais faire avec. Et puis, je vous demanderai des petits tuyaux pour savoir bien l'utiliser.
Absolument.
Non, merci.
Et vous allez recevoir un cahier de recettes avec 85 recettes saines et gourmandes pour accompagner le Blender Power 5XL de Magimix. Il arrive chez vous à Vannes. Merci Anne d'avoir
moi
été
aussi
avec nous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi à table sur Europe 1, toujours en compagnie de Philippe Thonard et d'Olivier Pouls. Laurent Baffy est avec nous jusqu'à midi et demi. Tiens, on va parler un petit peu de cuisine et d'une belle soupe miso, parce que c'est le titre de votre spectacle aussi que vous avez écrit et mis en scène, Laurent Baffy. Soupe miso interprétée par trois comédiennes. Et sur l'affiche, c'est écrit en gros « Laurent Baffy balance les porcs ». C'est votre côté féministe qu'on peut retrouver dans ce spectacle.
Usé à dénoncer la misogynie depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. C'est un spectacle très très drôle, édifiant, qui porte la bonne parole et c'est au théâtre des Mathurins.
Est-ce que c'est compliqué de rire de tout aujourd'hui avec le politiquement correct, le wokisme? Est-ce que c'est compliqué pour vous Vous avez changé votre façon de faire rire ou pas?
Non, je l'ai déplacé. Je l'ai déplacé sur scène. On n'a plus de liberté dans les médias, donc je vais sur scène et je reste moi-même.
Il y a des vannes que vous interdisez, par exemple, à la radio, à la télévision, maintenant ?
Non, les vannes que je m'interdis maintenant, je me les interdisais avant. J'aime pas trop blesser les gens ou aller sur des sujets trop touchy, mais mon boulot, c'est quand même de flirter avec les limites. Donc, et les limites se déplacent. Donc, ce que je pensais être autorisé il y a quelques années, ne l'est plus maintenant.
Laurent Baffy, tiens, quelle place tient le vin dans votre vie ?
Eh bien, écoutez, une place énorme.
C'est vrai ? Vous êtes un amateur ou vous buvez oui simplement pour le plaisir de la compagnie de l'ivresse?
Non,
vous
j'ouvre une bouteille seul. Je suis très 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 Bordeaux. J'aime aussi des vins plus exotiques, comme des vins. J'aime les vins très forts.
Alors on va rester dans le sud, figurez-vous, puisque nous étions du côté de Marseille avec Laetitia qui nous régale avec son chou farci. Pas très loin
de
Marseille.
Oh, la métaphore est vilaine.
Pas très loin de Marseille. Olivier, vous aimez une appellation que Laurent aime beaucoup également.
On m'a soufflé à l'oreille que vous aimiez les vins de Bandol.
Oui, j'adore.
Ah,
j'adore.
Eh bien, ça tombe bien. Parce que moi aussi. C'est une magnifique appellation.
Oui.
Pas très connu malheureusement, ou
quand
en tout
même
cas pas assez connu, et qui est pas payé à sa juste valeur. Je m'explique, on trouve à Bandol des vins de garde, dans les trois couleurs, hein, des rouges, des blancs et des rosés, à des prix encore assez abordables, et sont des vins qui ont d'abord une structure et une assise terroir qui est importante, comme on dit, et qui sont capables de vieillir, et je vais vous le démontrer, et parfois même où on les attend pas. Alors sinon, Bandol, une vieille appellation. On y produit du vin depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est bon an, mal an, 1600 hectares de vignes. C'est une des grandes appellations phares du Var et incontournable avec ce vignoble qui regarde la mer.
Oui, dans une région magnifique qui surplombe la mer.
C'est superbe, avec les entrées maritimes qui font du bien justement. Exactement, aux vignes.
Qui apportent un peu de fraîcheur.
Quel cépage trouve-t-on du côté de Bandol?
Et bien, pour les rouges, c'est le royaume du Mourvèdre, pour les rosés aussi. Mais en fait, il y a 12 cépages qui sont autorisés à Bandol, parmi lesquels Grenache, Syrah, Cinsault, Clairette, Rolle, Bourboulinc, Sauvignon. Vous voyez, une belle palette et surtout beaucoup de possibilités
justement
d'assemblage.
Moi, le rosé, je le commande par palette. C'est marrant ce que vous dites.
Bah, vous avez raison.
Oui. Et tous mes amis en prennent.
En
profite, bien sûr. Château Salette, c'est mon préféré.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté, alors, justement,
eh ben,
à
voilà.
déguster, Olivier?
Je vous ai apporté un domaine de Terre Brune, qui est un domaine que j'aime beaucoup. Je vous ai apporté un rosé, mais pas n'importe quoi. Ils sont, pour vous, Laurent Baffie, sont allés chercher dans leur cave un vieux rosé, avec cette démonstration assez surprenante qu'un rosé, quand c'est bien fait et que ça vient d'un grand terroir, ça peut vieillir.
Alors j'explique aux auditeurs d'Europe 1 qu'à l'œil, il ressemblerait presque à un vin du Jura. Il a des petites notes
presque un peu orangées.
Orangées, jaunes,
cuivrées. Oui, bien sûr, cuivrées. C'est un Bandol de rosé, 2012. Et vous avez vu la fraîcheur et la complexité qu'il y a dans ce vin. C'est la démonstration que le rosé, ce n'est pas qu'un produit qui doit être bu dans l'été qui suit son élaboration, mais que quand un rosé est issu d'un grand domaine, d'un grand terroir avec un vrai savoir-faire, mais c'est capable de vieillir de façon étonnante.
Et c'est l'accord parfait avec le chou farci de Laetitia Vissa.
Ça marche extrêmement bien.
Laetitia, vous confirmez?
Je suis très contente de ce choix.
C'est vrai,
ouais.
Hein,
ouais, ouais,
ça marche
bon.
Bien, ça
ouais,
marche
ouais.
Super bien.
Ça reste des vins très équilibrés. Alors ça, c'est le domaine de Terre Brune, mais il y a plein d'autres domaines aujourd'hui.
Quelques noms de domaines, justement, bah, écoutez, si les auditeurs d'Europe 1 veulent refaire leur cave prochainement.
Prado, Tempier, La Bégude, Pibarnon, Rennes-Jeanne, ce sont des vins qui restent à peu près accessibles. Les rosés tournent, sont un peu plus chers que des rosés de Provence classiques, encore que ça dépend, mais tournent entre 15 et 20 euros. Et à moins de 30 euros, entre 20 et 30 euros, on a des très grands vins de Bandol capables de vieillir.
Château Salette. Château Salette, c'est votre préférence, on a bien compris, Laurent et Philippe Tonnard.
Non, mais je dis ça, je répète, dans l'espoir qu'il m'offre une palette. Mais Château Salette.
Vous voulez rajouter quelque chose,
Philippe Tonnard ? J'avais une question pour Olivier, c'est sur le fait de boire un rosé qui a plus de 10 ans. Pourquoi les autres régions, même celles qui ont des beaux terroirs, ne se mettent pas à faire des rosés de garde ?
Eh bien, c'est une bonne question.
Très bonne question.
Je pense que. Alors, c'est pour des raisons, je pense, essentiellement commerciales. C'est que c'est assez pratique de vendre le rosé, de le boire immédiatement, ça fait tourner la trésorerie. Et c'est vrai que si on devait expliquer qu'il faut aussi se mettre à garder le vin de rosé, bah, ça pourrait poser quelques problèmes. Mais quand c'est issu des grands terroirs, une fois encore, ça vieillit très bien.
Eh bien, merci Olivier. Et on vous retrouve, je le redis, hein, tous les jours dans Historiquement Vôtre, aux côtés de Stéphane Bern, l'émission d'Histoire d'Europe 1 de 16h à 18h. Laurent Baffy, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants.
Allons-y.
On va vous saisir. Quel est le goût de votre enfance, Laurent?
Oui, les plats de ma grand-mère qui était napolitaine et qui me faisait de la cuisine italienne. Ça, c'est les gnocchis que je l'aidais à tourner.
Avec la fourchette.
Avec mon doigt.
Avec le doigt.
Oui,
oh.
Elle tournait les gnocchis avec ses doigts. Voilà, ça c'est mon enfance. Oui. Ma grand-mère, je la voyais passer 2 jours pour faire une sauce tomate. 2 jours.
Voilà, c'est ça, c'est l'amour en cuisine, ça s'appelle. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo?
Alors, rien de spécial dans le frigo, mais dans le placard, il y a toujours une boîte de thon.
Quel est le premier plat que vous avez cuisiné, Laurent Baffy?
J'ai plus aucun souvenir de ça.
Et le dernier plat?
Aucun souvenir non plus. Je pense, le premier plat, j'ai dû me faire un œuf sur le plat. Et maintenant que je croule sous le pognon, je me fais 2 œufs sur le plat et je vous emmerde tous.
Quel est le plat que vous détestez, Laurent Baffy?
Pardon pour les abats, mais vous ne me ferez pas manger de cervelle ou de choses comme ça, c'est pas possible. Impossible. Et puis le goût le plus terrifiant que j'ai de mon enfance, c'est l'huile de foie de morue qu'on me forçait à boire, la petite cuillère.
Vous faites partie de cette génération.
Ah ouais.
Ouais, mais vous êtes en forme aujourd'hui, regardez.
Oui, si vous le dites, je n'ai que 32 ans. Oui.
Quelle est votre adresse secrète?
Mon adresse secrète, c'est chez vous. Parce que j'ai rarement aussi bien mangé que chez vous, Laurent. Vous m'avez fait des petits ronds une fois.
Ah, petits marrons grillés façon tagine.
Ouais, c'était super bon.
Oh, vous êtes gentil.
Et je voudrais donner l'adresse.
Votre...
Non, mais attendez.
54.
Alors, je vais donner le plus simple. C'est dans le Marais. Là, dans le Marais. Le plus simple, Laurent, je vais donner votre portable afin que les gens réservent pour que vous puissiez.
Mais vous avez raison.
Remake d'Antoine Decaune et de Garcia.
Exact. Il faut s'organiser. Quel est votre meilleur souvenir au restaurant, Laurent Baffy?
Alors, j'en avais déjà parlé ici. C'était en Italie quand j'ai emmené ma maman sur la côte amalfitaine et on a mangé dans un très bon restaurant face à la mer. Tout était bon, tout était délicieux. J'étais avec ma maman et c'était sublime.
Et le mot de la fin est Fayem.
Ah, Abdiloula.
Oui.
C'est quand on peut rôter à table, quand on a bien mangé. Comment on dit, pardon
Abdiloula.
Comment?
Abdiloula.
Abdiloula.
Ouais, c'est ça?
Ouais. Ouais.
Ouais, c'est ce qu'on entend en Afrique du Nord, beaucoup, quand on a mangé, absolument. Merci Laurent Baffy d'être venu à table.
Merci Laurent Mariotte.
On était heureux de vous accueillir.
Attendez, je vais donner votre téléphone quand même.
Je rappelle votre dictionnaire, l'intégrale de Laurent Baffy, paru chez Caro. 1 million de livres vendus pour Laurent Baffy en tout. Son spectacle
06
se pose
11
des questions.
55.
Votre spectacle Laurent Baffy se pose des questions. Ce soir au Havre, le 17 mars à Nantes, le 21 mars à Bordeaux, le 5 avril à Lyon. Et merci à mon équipe
Soupe
de m'avoir
miso.
Aidé à préparer
au
cette émission.
Des
et Soupe Miso au Théâtre des Mathurins. Absolument. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et on dit au revoir à Anaïs Kerdraon de la rédaction. Elle était avec nous pendant quelques mois. Elle a fait un boulot formidable avec nous. Elle part en voyage. Elle a bien raison de découvrir le monde. Elle revient quand elle veut.